Appelez-nous, exprimez-vous, 33 1 53 92 64 40. Juan Gomez.
Bonjour à tous, bienvenue, très heureux de vous retrouver. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h, heure de Paris, 9h en temps universel avec dans un instant votre rendez-vous quotidien avec la rédaction de Radio France Internationale. C'est l'occasion pour vous tous, comme chaque matin, de nous poser vos questions afin de mieux comprendre l'actualité. Tous les sujets, évidemment, nous intéressent, donc n'hésitez pas, si vous posez la moindre question sur un sujet que vous entendez sur l'antenne de RFI, eh bien vous nous appelez en composant le 01 53 92 64 40 30 53 1 53 92 64 40 si vous nous appelez de l'étranger. Et puis en deuxième partie d'émission, dans une trentaine de minutes, nous parlerons du financement des grands travaux en République démocratique du Congo. Le pays a été ravagé ces 10 dernières années par plusieurs conflits et deux guerres régionales, donc tout est à reconstruire, toutes les infrastructures sont à réhabiliter, et pour financer des voies de chemin de fer, des routes, des écoles, des hôpitaux, eh bien les autorités congolaises se sont tournées vers la Chine. Pékin met sur la table 9 milliards de dollars, 6 milliards pour les infrastructures et 3 milliards pour le secteur minier. Et en contrepartie, eh bien, les autorités congolaises ont octroyé à la Chine des concessions minières sur plusieurs décennies. L'opposition y voit un bradage des ressources naturelles, car si la Chine débloque 9 milliards de dollars, ce qui est une somme importante évidemment pour la République démocratique du Congo, eh bien, l'opposition affirme que la production minière est évaluée à 90 milliards de dollars. Alors que vous inspire ce type de coopération? Partagez-vous finalement les inquiétudes de l'opposition? Je vous cache pas que le sujet suscite déjà beaucoup de réactions au standard. Vous continuez bien évidemment à nous rejoindre. 33 1 53 92 64 40. Nous passons au standard avec vos questions. Emmanuel, bonjour.
Bonjour Juan, bonjour à tous.
Vous êtes à Douala, au Cameroun, et vous avez des questions concernant l'économie israélienne.
Effectivement, en ce moment où on célèbre dans les 60 ans de la naissance d'Israël, j'aimerais donc savoir comment l'État hébreu s'est-il construit économiquement parlant? Quels sont les secteurs économiques les plus développés en Israël? Car Israël n'est connu qu'au niveau du conflit qui l'oppose à la Palestine.
Ouais, c'est vrai qu'en 60 ans, l'économie israélienne s'est considérablement transformée. Nous retrouvons à Jérusalem l'envoyé spécial de RFI, Nicolas Falaise, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, Nicolas. Israël a réalisé ces 30 dernières années une véritable révolution économique. S'il fallait, on va dire, un peu schématiser ou caricaturer cette évolution, on peut dire que le pays est passé de la production d'oranges à la haute technologie.
Alors ça, c'est pour l'évolution en termes de secteur d'activité. Et c'est vrai que l'agriculture a représenté et représente toujours une part importante de l'activité et des revenus économiques israéliens. Et qu'aujourd'hui, ces dernières années, on a assisté à l'émergence de ce qu'on appelle le high-tech. Alors au sens large du terme, le high-tech, c'est l'informatique, le conseil en informatique, la production d'outils, de technologies, de communication, souvent liés d'ailleurs au poids de l'armée en Israël, qui a favorisé aussi l'émergence de ces secteurs d'activité de pointe. Il y a aussi l'industrie pharmaceutique. Mais pour revenir peut-être à la question de notre auditeur, c'est vrai que c'est intéressant de se dire et de comprendre que l'économie israélienne est née en même temps que cet État, c'est-à-dire avant la création officielle de l'État hébreu en 1948. Dès les implantations des années 30, des années 20 de juifs immigrants ici, il a fallu bâtir une économie. Alors il y a eu un système économique qui a fait beaucoup parler de lui, qui est le kibbutz, qui était des villages collectivistes inspirés par les idées socialistes. Il a fallu bien sûr tirer parti et faire avec les limites de ce que trouvaient les gens qui fondaient, les pionniers qui fondaient l'État d'Israël. On peut citer pour cela les mots de l'ancienne première ministre israélienne Golda Meir, qui disait, nous, les Israéliens, on comprend pas très bien pourquoi Moïse nous a amenés dans le seul coin du Proche et du Moyen-Orient où on ne trouve pas de pétrole. Oui. C'est vrai qu'il n'y a pas de ressources naturelles, à part le soleil, la terre et même très peu d'eau pour faire pousser des légumes. L'effort agricole a été effectivement important dans les premières années qui ont précédé, puis qui ont suivi la naissance de l'État en 1948. Il faut préciser, pour que le tableau soit complet, Juan, que pendant très très longtemps, l'État a été très très présent dans l'économie. Jusque dans les années 80, Israël arrivait juste derrière les pays du bloc socialiste, si on mesure le poids de l'État dans l'économie. C'était l'économie la plus administrée du monde, hors à part le bloc soviétique socialiste. Il a fallu sortir de ce schéma dans les années 80. Il faut dire qu'on avait à ce moment-là un dérèglement économique considérable. 450% d'inflation dans les années 80. Il y a eu des réformes libérales, puis même très libérales dans les années 80, puis 90. Donc, on est passé d'un système très administré à un système très libéral, qui aujourd'hui génère beaucoup d'inégalités. Et puis, en termes d'activité, on le disait au début, on est passé effectivement de la production d'avocats, d'oranges, qui, même si elle se poursuit, aujourd'hui a laissé la place à des secteurs de pointe qui s'exportent beaucoup dans le monde.
Avec une croissance aujourd'hui de 5 à 6%, vous parliez d'inégalités, c'est vrai qu'on constate une aggravation de la pauvreté en Israël. Il y a à peu près 1,5 million d'Israéliens qui vivent sous le seuil de la pauvreté. Emmanuel, est-ce que vous êtes satisfait des explications de Nicolas Falaise ?
Oui, effectivement, mais j'aimerais avoir, je ne sais pas, une petite réponse de sa part. Oui. J'aimerais savoir dans quelle catégorie peut-on classer Israël comme pays émergent, pays développé, sous-développé, dans quelle catégorie exactement ?
Nicolas Falaise ?
Oui, aujourd'hui, Israël est clairement en compétition avec les pays développés. Ça, en termes de croissance, de revenus par habitant, on est plutôt dans le haut du tableau. Pour vous donner un exemple, une illustration très claire, là, je me trouve actuellement dans un centre de conférence où le président israélien Peres réunit à l'occasion des 60 ans d'Israël des chefs d'État, des économistes, des prix Nobel venus du monde entier. Et tout le monde a en tête, et souvent dans ses discours, ce paradoxe que Israël devra sans doute surmonter un jour, effectivement d'avoir une économie en pointe et qui est en train de s'affirmer et puis de faire ses preuves, de réussir dans le monde, et des inégalités qui augmentent. Ce sera sûrement un défi majeur pour les dirigeants israéliens dans les années qui viennent.
Ouais, vous parlez de Peres, il est actuellement à l'aéroport, il est en train d'accueillir le président Bush qui vient tout juste d'arriver en Israël pour participer aux célébrations des 60 ans de la création d'Israël. Merci beaucoup Nicolas Falaise d'avoir été en direct avec nous de Jérusalem. Emmanuel, bonne journée à Douala. Nous repassons au standard au 01 53 92 64 40 avec plusieurs questions sur les primaires démocrates aux États-Unis. Dès qu'il y a une consultation, ça suscite toujours une vague de questions au standard. Aboubacar, bonjour.
Bonjour Wadi.
Bienvenue Aboubacar.
Bonjour cher fidèle au hôtel de RFI.
Vous êtes à Bamako.
Oui. Oui, je suis à Bamako.
Nous vous écoutons.
J'ai une question par rapport aux primaires démocrates. Pourquoi tous les médias donnent gagnant Obama, par nombre de délégués, de super-délégués, d'ailleurs sur à peu près 4 ou 5 super-délégués de plus, sur Hillary Clinton, si on sait que les primaires ne sont pas encore terminées?
Ah, bonne question. Les primaires ne sont pas encore terminées. Il reste encore 5 consultations si ma mémoire est bonne. Sylvain Biville, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, Sylvain. Effectivement, pourquoi donne-t-on absolument Barack Obama vainqueur des primaires démocrates, alors qu'encore hier, on a bien vu que Hillary Clinton a remporté la consultation en Virginie, qu'il en reste encore 5 autres. Mathématiquement, quand on fait des calculs, on s'aperçoit que Hillary ne peut pas rattraper Obama, c'est ça?
Effectivement, c'est difficile. Alors, c'est compliqué de dire que les mathématiques sont contre elle, parce que les mathématiques, c'est justement l'ordre des possibles. Il peut toujours se passer quelque chose d'exceptionnel qui peut changer la donne dans les quelques jours qui nous séparent de la fin des consultations, le 3 juin, mais ça va être quand même très difficile. C'est vrai que Hillary Clinton a remporté hier l'une de ses plus confortables victoires en Virginie-Occidentale.
Sans surprise, hein, il y avait pas de surprise. Là.
Mais c'est vrai que c'est quand même une vraie victoire. 67% contre 26% pour Obama, c'est 40 points d'avance. Et évidemment, elle compte profiter de ça pour dire, regardez, je ne suis pas encore complètement fini. Elle ne s'est pas privée de le dire hier. C'est vrai que la Virginie-Occidentale, même si c'est un petit État, c'est un État clé. Ça fait partie de ce qu'on appelle aux États-Unis les swing states, ces États qui passent des républicains aux démocrates. C'est aussi un État qu'aucun démocrate ne s'est permis de perdre pour remporter la Maison Blanche depuis Woodrow Wilson en 1916. Ça, c'est un argument évidemment donné par la campagne d'Hillary Clinton. Et c'est vrai que cette victoire révèle encore les points faibles d'Obama, notamment dans l'électorat des petites classes moyennes blanches, plutôt âgées, qui c'était le profil de l'électorat en Virginie-Occidentale. Mais et on arrive à semer. Mmh. C'est vrai que les résultats de cette primaire, ce n'est pas le résultat de l'élection générale. Le résultat de cette primaire ne reflète pas la tendance incontournable qui se dessine. Il ne faut pas perdre de vue la vision d'ensemble.
Oui. Alors voilà, les chiffres, parce que c'est ça.
Revenons aux chiffres. Oui. Barack Obama reste en tête dans toutes les catégories, c'est-à-dire le nombre de délégués élus. Malgré la victoire d'Hillary Clinton hier, elle n'a que 12 délégués de plus que Barack Obama. Il reste très en avant, en règle générale, d'à peu près 170 délégués. Donc c'est quasiment insurmontable. Il reste effectivement 5 primaires, mais il n'y a que 189 délégués en jeu dans ces 5 primaires. Mmh. Donc il reste en vote dans les délégués élus, il reste en tête dans les délégués élus, il reste en tête dans le vote populaire, et il est en tête depuis quelques jours dans cette catégorie des super délégués. Alors vous savez que ce sont les hiérarques du parti, en fait, ceux qui vont aller siéger à la convention à la fin du mois d'août sans avoir été élus à l'issue de ces primaires. Eh bien, Barack Obama a aujourd'hui 12 super délégués de plus, non pas 3 ou 4, mais 12 de plus. Mmh. C'est vrai que ça paraît pas énorme, mais il faut voir le rythme auquel il engrange les super délégués. En une semaine, il en a engrangé 27, alors que Hillary Clinton, elle, n'en a engrangé que 2 ou 3. Il y a une vraie tendance de fond qui se dessine. Et,
il reste encore beaucoup de délégués qui ne se sont pas évidemment prononcés.
Il en reste quand même beaucoup, mais à peu près 240. Oui. Hein. Mais c'est vrai que la tendance paraît véritablement incompressible. Alors il y a des projections qui sont faites, bien sûr, hein, pour Hillary Clinton, même si Hillary Clinton mmh. gagnait les 5 prochaines primaires avec le score triomphal qu'elle a obtenu hier en Virginie-Occidentale, elle serait quand même à la traîne de plus de 100 délégués par rapport à Barack Obama. Voilà les mathématiques.
Et en même temps, il y a la réalité, c'est que les super délégués peuvent changer d'avis à la dernière minute.
C'est vrai qu'ils peuvent changer d'avis à la dernière minute.
Donc il peut y avoir des tractations en coulisses, des négociations.
Effectivement, mais ce serait très hasardeux pour eux d'aller à l'encontre du vote populaire des délégués élus. La semaine dernière, d'ailleurs, le magazine assez influent, hein, Time, ne s'y est pas trompé, puisqu'il a mis sur sa couverture Barack Obama avec une manchette qui indiquait « And the winner is », vous savez, c'est ce qu'on dit aux Oscars,
et le gagnant est.
Et c'était effectivement un Barack Obama tout sourire qui triomphait à la une de Time Magazine. Alors, il y a un signe qui ne trompe pas, c'est que Barack Obama, hier, s'est permis le luxe de ne même pas faire de discours après la fermeture des bureaux de vote. C'est une première. Mm-hmm. Ça veut dire qu'effectivement, pour lui, cette victoire n'est pas tellement significative. Et il se place déjà dans la perspective du mois de novembre. Il se place déjà dans la perspective de la confrontation avec John McCain. Un autre exemple de cet état d'esprit, c'est qu'il a fait campagne hier dans le Missouri. Il est aujourd'hui dans le Michigan. Il sera la semaine prochaine en Floride. 3 états qui seront clés pour l'élection de novembre, et 3 états où les primaires ont eu lieu. Donc maintenant, toutes les spéculations, c'est sur le timing de la possible sortie d'Hillary Clinton.
À suivre. En tout cas, prochaine consultation, ce sera le 20 mai dans l'Oregon et dans le Kentucky. On remercie Aboubakar, qui nous appelait de Bamako. Je regarde la pendule. On accélère un peu avec Victorieux. Bonjour Victorieux.
Bonjour Wanda, bonjour Alessi.
Merci d'être avec nous. Vous nous appelez de Kinshasa, nous vous écoutons.
Oui, oui, ma préoccupation, c'est toujours sur les primaires démocrates. Je suis en train de suivre les explications qu'on venait de donner. Mmh. Alors, il y a Barack Obama qui est favori et qui risque de l'emporter sur Hillary Clinton. Et ma question est de savoir si un ticket Barack-Hillary peut être envisageable, c'est-à-dire Barack Obama comme candidat président et Hillary Clinton comme vice-président.
Alors,
après tout,
pourquoi pas, effectivement. Mieux vaut ça que rien. Sylvain Biville, le ticket Obama-Clinton, l'idée avait déjà été évoquée il y a quelques mois. C'était d'ailleurs Hillary Clinton qui disait, pourquoi pas envisager Barack Obama comme vice-président si toutefois je suis élu, évidemment, à la Maison-Blanche.
Voilà, c'était une époque où elle se considérait encore comme favorite, hein, et elle avait lancé cette idée du ticket qui à l'époque avait séduit pas mal d'électeurs. C'était avant cette confrontation très amère et très disputée entre les deux candidats. C'était à une époque où on parlait de dream ticket, le ticket de rêve entre deux héros du Parti démocrate. Ces derniers mois, on n'en a plus parlé du tout. Et c'est vrai que là, l'idée revient en force sous forme de rumeurs, sous forme de spéculations. C'est une idée qui peut être séduisante. On va essayer de voir ce qui plaide pour et ce qui plaide contre. C'est séduisant parce que c'est vrai qu'ils sont très complémentaires. Les différentes primaires ont montré qu'ils ont des électorats qui sont radicalement différents. L'électorat noir, électorat éduqué, électorat jeune pour Barack Obama, électorat blanc, électorat plutôt âgé et petite classe moyenne pour Hillary Clinton. Ça, c'est des forces incontestables dont ils ont fait preuve l'un et l'autre. Donc, ce serait effectivement un moyen d'unir le parti, puisqu'il y a des risques de division après cette confrontation très forte. Et puis, plus personnellement, pour Hillary Clinton, c'est vrai que la perspective d'un retour au Sénat après le mois de novembre en tant que simple sénatrice, c'est pas forcément très réjouissant.
Donc ce ticket lui permettrait de quitter la campagne, la tête haute.
Enfin, il faut encore qu'elle
accepte.
Il faut encore que ça lui soit proposé. Alors justement, les éléments qui plaident contre l'idée de ce ticket sont peut-être encore plus importants que ceux qui plaident pour. C'est vrai que pour Hillary Clinton, on peut aussi voir ça comme quelque chose d'assez dégradant, d'accepter la place de numéro 2, alors que pendant toute l'année 2007 et pendant même toutes les dernières années, elle était considérée comme entre guillemets la candidate naturelle du Parti démocrate. Elle a déjà été à la Maison Blanche en tant que première dame pendant 8 ans. Revenir avec un rang quasiment inférieur de vice-président, ça serait compliqué. Pour Barack Obama, ça ne présente pas que des avantages. C'est vrai que avoir Hillary Clinton dans les pattes, ce sera pas forcément pratique pour lui. Surtout que elle n'arrive pas toute seule. Elle arrivera avec Bill Clinton, l'ancien président, qui se retrouverait à nouveau à la Maison Blanche. Ça peut donner un cocktail assez détonnant. Et puis surtout pour Barack Obama, ça serait carrément contraire à son message principal dans cette campagne, un message de changement.
De rupture.
Voilà, de rupture. C'est vrai que c'est pas évident non plus parce que leur force pourrait peut-être s'annuler et non pas s'additionner en cas de ticket. Bon, Barack Obama a quand même dit la semaine dernière qu'elle serait sur la shortlist, sur la liste idéale de tous les candidats à la présidence, mais il dit qu'il est trop tôt pour en parler. L'alternative dont on parle de plus en plus en ce moment, c'est que Barack Obama pourrait choisir un allié d'Hillary Clinton. Ça lui permettrait effectivement de sortir la tête haute. Ça permettrait à Barack Obama de rallier les soutiens d'Hillary Clinton. Ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas sous-estimer. Les sondages sortis des urnes d'hier en Virginie occidentale ont encore montré que seulement 35% des électeurs d'Hillary Clinton affirment qu'ils voteraient pour Barack Obama si c'est lui qui l'emportait.
Ah oui.
Donc il y a vraiment ce risque de division.
Victorieux, a-t-on répondu à vos questions ?
Merci beaucoup à la Comesse.
Merci surtout à Sylvain qui est venu nous expliquer dans le détail les avantages et les inconvénients pour les démocrates si toutefois il y a ce ticket Obama-Clinton. Il nous reste 2 minutes 30, Mohamed est avec nous, il nous appelle de Paris, bonjour.
Oui, bonjour Rouen, bonjour toute l'équipe de RFI.
Nous vous écoutons Mohamed.
Alors moi j'aurais une question, c'est toujours sur les premières évidemment, c'est que en fait j'ai entendu dire dans certains médias qu'il y aurait une stratégie républicaine qui consisterait à faire voter des électeurs républicains aux primaires démocrates pour Madame Hillary Clinton. Parce que vu qu'elle accuse un retard, ça permettra de semer le chaos dans le camp démocrate jusqu'à la convention démocrate. Donc j'aimerais savoir, est-ce que c'est possible pour un électeur républicain de voter à des primaires ou des caucus démocrates, premièrement? Et deuxièmement, est-ce qu'une telle stratégie correspond à une réalité ou c'est juste encore une façon de déstabiliser le camp démocrate?
Sylvain Biville, est-ce que les militants républicains peuvent participer aux primaires démocrates?
Au niveau pratique, il y a tous les cas de figure possibles. C'est ce qui rend aussi compliqué et aussi passionnante, en fait, ces primaires démocrates. C'est que dans certains États, c'est réservé aux personnes enregistrées comme démocrates. Vous savez qu'aux États-Unis, à la différence de la France, par exemple, et de beaucoup d'autres systèmes dans le monde, quand on s'inscrit sur les listes électorales, il faut donner une préférence. Donc on est soit plutôt républicain, soit plutôt démocrate, soit enregistré comme indépendant. Donc il y a des États où seules les personnes enregistrées comme démocrates peuvent participer aux primaires démocrates. Il y a des États où ce sont des primaires ouvertes, c'est-à-dire que les indépendants peuvent y participer. Mais c'est vrai qu'on peut aussi changer d'allégeance comme ça. Il y a eu quelques cas, effectivement, de républicains qui, le temps des primaires, se sont fait enregistrer comme démocrates, avant bien sûr de redevenir enregistrés comme républicains au moment de novembre, parce qu'ils veulent voter pour leur favori. Il y a toutes les interprétations possibles. J'ai même entendu dire moi aussi que certaines personnes enregistrées républicaines s'étaient fait enregistrer comme démocrates pour participer aux primaires sous la pression de leurs enfants qui étaient partisans de Barack Obama. Vous savez qu'il est très fort chez les jeunes parce que ces enfants partisans de Barack Obama voulaient à tout prix que leurs parents, plutôt républicains, aillent voter pour Barack Obama. Donc il y a tous les cas de figure, c'est très difficile.
Mais est-ce qu'on peut parler de stratégie, Sylvain ?
C'est pas une tendance lourde et puis de toute façon ça reste à la marge. Je crois qu'il est très compliqué de spéculer sur les arrière-pensées des uns et des autres.
Merci beaucoup Sylvain Biville d'être venu dans ce studio répondre à ces nombreuses questions sur les primaires démocrates aux États-Unis. Vous restez avec nous dans un instant, le point complet sur l'actualité. Nous serons de retour dans 10 minutes avec notre débat du jour consacré aujourd'hui au financement de la reconstruction de la République démocratique du Congo. À tout de suite.